Radio Vostok, il est midi.
Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
Le rap suisse-allemand, ça marche en Suisse romande.
On a essayé au début des années 90, mais c'était très difficile.
J'ai une idée à voir, ça serait clair que les Walsches...
T'as une idée pourquoi les Romands n'aiment pas?
Peut-être qu'ils se sentent dominés par la Suisse alémanique et...
Il est 19h à Singapour, où quatre langues sont reconnues par l'État, l'anglais, le chinois, le malais et le tamoul. Il est 13h à Chypre, où une ligne verte de 180 km divise l'île en deux. Et il est midi, dans le studio de Radio Bascule, où sont présentes deux personnes qui travaillent régulièrement outre-Sarine et deux autres qui sont d'origine suisse-allemande. La technique est assurée par Benoît Serex et Léonard Blanc. En ouverture, on a entendu le rappeur Black Tiger qui s'exprimait dans l'émission Mise au point. Aujourd'hui, on s'intéresse à la barrière de Rushdie, cette séparation imagée entre culture romande et alémanique. En tant qu'artiste, est-il possible de la transcender ? Au cinéma, Ciao Ciao Bourbine a explosé le box-office avec 300 000 entrées enregistrées en salle fin janvier. En 2024, sur une population de 8,7 millions, le chiffre est conséquent. Cette comédie loufoque imagine un résultat de votation qui ferait du français la seule et unique langue nationale. Au théâtre, la plupart des dates du spectacle The Game of Nibelungen, une tentative de réconciliation avec nos cours obligatoires d'allemand, affiche complet. Avons-nous affaire à des exceptions? Ou est-ce que les Helvètes seraient en train d'accepter leurs différences? Selon Christophe Buchy, auteur du livre « Mariage de raison, roman et alémanique, une histoire suisse », le Rushdie-Graben s'estompe. Il relève également que la majorité germanophone n'a pas trop de problèmes avec ses compatriotes francophones et observe une sorte d'indifférence plutôt bienveillante à leur égard. Ce sont les Belges qui se méfient davantage. Le politologue René Knussel confirme ce dernier point en expliquant que, face à une domination systémique, ceux-ci ont l'impression que leur destin leur échappe. L'humour suffira-t-il à nous réunir ? Un autre élément rassembleur, en tout cas pour les jeunes générations, est l'anglais. Mais si les deux côtés de la Sarine aiment échanger par ce biais, qu'adviendra-t-il de notre multiculturalisme ?
Midi bascule. Marie-Ève Musy.
Autant de points que nous allons traiter aujourd'hui avec l'autrice et comédienne du spectacle The Game of Nibelungen, Laura Gambarini. Bonjour.
Salut.
Tu es pentalingue, c'est-à-dire que tu parles cinq langues. Par laquelle est-ce que tu as commencé ?
Alors, j'ai commencé par l'allemand, parce que moi, je suis née à Zurich. Puis, j'ai appris le français, puis l'italien, puis l'anglais, puis l'espagnol. Ouais, c'est ça. Et puis, le mime, qui est quand même une langue universelle. Et en fait, j'avais envie d'apprendre toutes les langues du monde pour pouvoir parler avec toutes les personnes dans le monde.
Mais finalement, le mime suffit. Le mime, tu peux parler avec tout le monde.
Alors, on peut parler avec tout le monde, mais ça, quand même, c'est très universel, mais ça aussi, ses limites. Donc, voilà.
Nous recevrons en milieu d'émission un deuxième invité, Bernie Forster. Il est l'auteur et réalisateur de la web-série House of Switzerland. Autour de la table de l'équipe Midi Bascule se trouvent Candice Savoya et José Lillo. Quel souvenir avez-vous de vos cours d'allemand, Candice ?
Moi, je n'ai pas fait de cours d'allemand. C'est mon grand... un peu ma honte et mon regret. Toute ma famille parle allemand, mais pas moi. Mais voilà.
Comment ça se fait ? T'as pas fait tes études en Suisse ?
Non, j'ai fait mes études en France et puis j'ai eu le choix. Et donc, j'ai choisi l'anglais, l'espagnol et l'italien. Tout ce que je pouvais faire, sauf l'allemand.
Et malgré le fait que tu aies une grand-mère allemande.
Je sais pas. Il y a eu ce truc de facilité, je crois.
Et toi, José ?
Je me souviens de mon premier cours d'allemand où j'étais traumatisé parce que le professeur est arrivé, il s'agitait dans tous les sens en nous parlant exclusivement en allemand, vraiment comme si on en débarquait en Allemagne et tout, et je comprenais rien du tout, et je trouvais que c'était pas du tout pédagogique, et ça m'a vraiment mis sur le bas-côté de l'allemand, quoi. Après, j'ai regretté parce que plus tard, j'ai développé une passion pour la littérature allemande, les philosophes, etc., et plein d'auteurs que j'aurais souhaité lire en allemand, quoi.
L'heure sera agrémentée de musique, choisie en partie par nos invités, et nous découvrirons la bande-annonce d'un spectacle bilingue intitulé Bleu, Bleu, Bleu. bleu, orthographié, je précise, B-L-O, tréma. Pour mieux comprendre ce titre, il faut rester avec nous. Laura Gambarini, tu es comédienne, mime, artiste de rue et prof d'allemand. Alors, tu vas peut-être contredire ce que José a dit tout à l'heure, parce que toi, justement, ton credo, c'est de parler qu'en allemand aux élèves. D'où vient ce désamour pour la langue allemande en Romandie ?
Alors, j'ai réfléchi à la question. En fait, on y réfléchit beaucoup quand on essaye de communiquer dans une langue qui est malvenue dans un endroit. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup déjà les autres générations avant toi te disent, non, mais tu verras, c'est hyper dur, on comprend rien. De toute façon, après, quand tu vas en Suisse allemande, ils parlent pas allemand, ils parlent le suisse allemand. Enfin, il y a plein de raisons comme ça. Et en fait, qu'on peut tout déconstruire, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça serait la faute de la Suisse allemande, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas revoir un peu le système et inclure, par exemple, un peu de Suisse allemande dans notre système? C'est plus facile de dire à l'autre, c'est bizarre. C'est étrange, c'est différent, alors qu'en fait, on peut aussi accepter une différence.
Ça, faut réussir à ne pas se laisser aveugler par nos préjugés aussi.
Ben là, je peux dire que oui.
Donc, tu disais que tu étais née à Bâle, puis tu as déménagé dans le canton de Vaud à l'âge de 6 ans.
Alors, à Zurich, mais ça va aussi.
À Zurich, tout à fait.
C'est de l'autre côté, hein, c'est tout pareil.
Autant pour moi. Quand on préparait cet entretien, tu m'as dit que pour toi, la barrière de rejeter n'avait jamais été un problème. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu ne la ressens pas?
Eh bien, j'ai réfléchi après qu'on se soit appelé là. Et en fait, j'ai habité à Zurich jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis, nous avons déménagé en Suisse romande. Et je me rappelle de ce jour, parce qu'on était dans le train avec ma maman et ma sœur. Et on avait laissé mon père qui devait encore régler des choses. Et nous, on allait vraiment dans un autre monde, dans une autre langue, etc. Et du coup, là, j'ai eu très, très peur. Je me suis dit, oh, on va laisser mon papa ici, etc. Bon, j'avais 6 ans, on va aller dans un autre monde où on parle une autre langue, etc. Et en fait, je l'ai très vite apprise. En fait, quand on a 6 ans, après, on oublie ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, cette peur comme ça, c'est vraiment... moi, j'avais 6 ans, alors... Puis après, là, je me dis, en tant qu'adulte, est-ce qu'on doit vraiment avoir ces peurs-là? Parce qu'on a d'autres outils quand même, je me dis. Enfin, j'espère. Enfin, voilà.
Effectivement. The Game of Nibelungen est né grâce au Covid. J'aimerais revenir sur sa genèse. Comment as-tu eu l'idée d'écrire ce spectacle?
Alors, je travaillais comme marionnettiste dans la rue et tout ça. Le Covid arrive. Je suis sur mon canapé, je regarde des séries. Il y en a des très bonnes, mais c'est vraiment... C'est chiant, quoi. Et donc, je me dis, je vais faire un truc qui fait sens. Je vais retourner enseigner l'allemand, ce que je faisais pendant mon uni, en fait. Parce que comme ça, je fais quelque chose avec des gens. Et là, en tant que remplaçante, on te donne un livre et tu dois enseigner ça. Et donc là, on me donne les Nibelungen et je dis, d'accord, merci. J'en ai vaguement entendu parler, mais voilà. Et donc, l'intrigue est touffue, mais un truc de malade. Hein. C'est une épopée comme les légendes arthuriennes. Enfin, c'est vraiment... Sauf qu'il y a beaucoup plus de morts, de sang, de dragons, de machin et tout. Et là, j'entreprends d'enseigner ça. Et comme moi, je fais du théâtre d'objets, hyper naturellement, pour moi en tout cas, je commence à jouer avec les trucs comme ça qu'il y a sur la table. Mon téléphone devient un personnage et tout ça. Et à un moment donné, il y a un viol. Là, je me dis, comment je peux faire passer ça? Enfin, comment ils peuvent comprendre ça? Et là, je commence à maltraiter mon parapluie comme ça sur mon bureau. Et là, j'ai une vision de moi-même en train de taper ce pauvre parapluie sur le bureau. Et je me dis, mais je suis en train de faire un spectacle, en fait. Je fais un spectacle. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un spectacle. Parce que ça fait complètement sens, ce tout petit pont. Je me dis, soit pour des gens qui n'ont jamais eu des cours d'allemand, soit des gens... qui ont un très mauvais souvenir.
Et mais du est-ce coup, que les élèves étaient réceptifs? José, si tu avais eu des cours d'allemand comme ça, t'aurais peut-être écouté à l'époque.
Ouais, sans doute, c'est clair. Plutôt que Lieselotte und Hans Saudi. Lumpi.
Et oui.
Et donc, tu donnes tes spectacles aujourd'hui dans des salles de classe.
Oui, exactement. C'est ma scéno, c'est hyper pratique. Comme ça, c'est déjà sur place. Heureusement, on a des écoles un peu partout. Donc ça, c'est très cool. Et ça permet aux adultes de retourner en salle de classe. Donc en fait, le spectacle commence déjà avant que j'arrive, en fait. Parce qu'il y a ceux qui se placent tout derrière, il y a ceux qui vont tout devant, il y a ceux qui viennent un peu à reculons, parce qu'ils viennent quand même à un cours d'allemand.
Et donc, tu donnes des gommettes au public pour récompenser les gens qui donnent des bonnes réponses, quoi.
Oui, évidemment. Et c'est des gommettes plutôt... Enfin, oui, je donne les gommettes à la personne qui a donné la réponse, mais c'est aussi pour le collectif, parce que comme ça, tout le monde peut suivre, en fait.
On va écouter un extrait. Comme c'est du théâtre d'objets, je précise. Siegfried, le héros légendaire fort et courageux, est représenté par un thermos. Et Gunther, le roi faible et niais, est incarné par une vieille pâte sale.
Oh, un schloss kaputt!
Oh nein! Das ist mein Schloss!
Freunde sein? Freunde, Definition. Freunde, also für uns heute hier, das ist Liebe, aber ohne Sex. So wie bei Asterix und Obelix.
Candice, toi qui n'as jamais fait d'allemand, est-ce que tu as compris cet extrait?
Pas du tout. Désolée.
Non, c'est vrai?
Non. Enfin,
qu'est-ce qui t'a échappé?
En fait, je décroche tout de suite, je crois.
Bon, tu n'as pas le visuel. Alors,
ouais.
Attends,
je te le refais. Non.
Effectivement, le visuel aide beaucoup.
Mais est-ce qu'il y a des surtitres à un moment dans
jamais.
Le spectacle?
Bah là, je suis en train d'écrire au tableau, en fait, pendant cet
okay.
extrait. Du coup, je
français.
Fais des schémas. Non, en fait, je fais des schémas, je fais des dessins.
Okay. Par exemple, pour Liebe, elle dessine un cœur.
Ouais.
Et Schloss, qui est le château, a été expliqué un peu avant. Je ne sais plus comment tu l'as expliqué, mais en tout cas, tu as remis dans le contexte, quoi.
Je le dessine, puis je fais un gag que j'adore, mais que je ne vais pas spoiler ici.
Ok. Tu as joué ce spectacle aussi en Allemagne,
ouais.
Dans sa version initiale, hein, celle qu'on vient d'entendre et qui est pensée pour des francophones.
Ouais.
Comment a-t-il été accueilli?
Ben, j'avais bien peur parce que justement toute la dramaturgie elle base sur le fait que les gens comprennent pas et que moi je, en tant que prof je galère complètement à faire comprendre le truc. Et en fait je me suis dit, on a été engagé dans un festival, on s'est dit allez on essaye. Et en fait c'était hyper cool parce qu'en fait c'était pas tant la langue qui les faisait rire, en fait c'était l'humour de situation, les personnages, et aussi il y avait beaucoup plus de gens qui connaissaient les Nibelungen, qui n'est pas le cas ici, et donc en fait ils riaient en fait de voir l'adaptation que moi j'en ai faite, en fait c'est comme
c'est-à-dire qu'ils riaient mais pas pour les mêmes raisons que le public francophone, c'est intéressant.
Aussi parce que du coup le public francophone j'espère aussi qu'il a de l'humour et donc il rit aussi aux comiques de situation, mais en fait il rit aussi du plaisir de comprendre, en fait ça c'est ce qui n'est pas arrivé en Allemagne, en fait.
Tu as aussi joué au festival d'Avignon. Comment ont réagi les Françaises et Français qui n'ont pas ce background des cours d'allemand obligatoires à l'école comme nous?
Ben là aussi on se posait aussi des questions comment ça va être accueilli. Et en fait, ça aussi, c'était hyper cool, c'était génial, parce qu'en fait, nous, on a le Rüschtigraben, mais c'est pas comme si la France avait pas une relation conflictuelle avec l'allemand, quoi. Donc ça faisait déjà complètement sens de faire ça là-bas en bas. Et en fait, pareil, comme vraiment, c'est vraiment fait pour même des gens qui ne parlent pas du tout allemand. C'était l'émeute, quoi. C'était vraiment super.
Et donc c'est un succès, on peut le dire, je crois. Pratiquement toutes ces représentations sont affichées complètes bien avant qu'elles aient lieu. Tu as récemment joué à la Comédie de Genève et au théâtre le 12-18 au Grand Saconnet. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est prêt à se réconcilier avec les Alémaniques?
Moi j'adore cette idée.
quel retour as-tu reçu par rapport à ça, par rapport à la cohésion
Eh bien, c'était un peu le versant politique de ce spectacle. Et en fait, moi, je suis toujours très touchée quand les gens, à la fin du spectacle, viennent vers moi et me disent oh, Mais en fait, mon allemand était pas si pourri. En fait, j'ai tout compris, quoi. Et ça me, même si c'est vraiment par touche, j'ai une jauge de public de 30, 40 personnes, hein, à chaque fois, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est des tout petits pas, et du coup, ça.
Et d'ailleurs, on peut comparer tout de suite. Toi, tu as eu des cours d'allemand à l'école, José. Est-ce que tu as mieux compris l'extrait que Candice?
Moi, j'ai compris Honesex. C'est pas compliqué.
Je sais pas le dire.
Mais. Non, mais il y a des mots qui rassent. C'est vrai qu'il y a des mots qui rassent quand je suis en Allemagne. Enfin, c'est rarement, mais ça m'arrive d'être dans des territoires de linguistique germanophone. Il y a quand même du vocabulaire qui revient. C'est pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de masochisme, en fait, à se dire non, c'était vraiment nul en raison de je ne sais pas pourquoi, une telle douleur commune hein, pour l'allemand, mais sans doute reliée aussi à la grande histoire du XXe siècle et à la production cinématographique française qui a pas aidé à avoir des rapports sympathiques avec l'allemand.
Effectivement. Laura, tu nous proposes d'écouter « J'aime mon pays » de Sexy Sushi. Comment as-tu découvert ce titre ?
Oh là là, oh, je sais même plus, mais oh là là, quelle excellente question. Oh, mais en tout cas, je l'écoute sans retenue. Attends, on amène 2. D'un 7, ça fait 14.
Vous êtes dans Midi Bascule. On vous entend à l'antenne. Eux, ils sont là, ils sont laissés emporter par la musique et puis ils parlent comme s'ils étaient chez eux sur leur canapé, quoi. Donc, toujours à l'affût des évolutions culturelles en cours, aujourd'hui, on se demande si la barrière de Rushdie ne serait pas en train de s'affaisser. Candice s'est intéressée aux différences culturelles. Qu'as-tu trouvé ?
Le Rushdie Graben. Alors moi, clairement, je suis plus Rushdie que Graben. C'est-à-dire que j'aime bien Berlin, mais la comparaison s'arrête là. Par contre, j'adore l'expression. Parler de bouffe dans une métaphore sur une barrière politique remontant à la Première Guerre mondiale, génial. C'est très imagé en plus. À chaque fois que je vais à Berne, je me dis que je vais avoir des patates et du Saint-Doux dans les cheveux.
Ok Candice, mais on n'est pas vraiment là pour parler de ta perception des expressions, je crois.
Alors oui. C'est vrai. Donc, il existe des différences culturelles entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Et une expression a été créée pour nous le rappeler. Dans l'Atlas du folklore suisse, qui a été écrit en allemand, on parle des différentes perceptions des légendes. Pour faire peur aux enfants, oui, c'était avant l'éducation positive. En Suisse romande, on parle du loup, du gendarme ou du ramoneur. Des choses concrètes. En Suisse alémanique, on évoque la chouette, ok, ça fait super peur, et des créatures légendaires comme l'homme au crochet ou la femme de la nuit. Attendez, la quoi ? La femme de la nuit ? Sérieusement ? Oh là là, je sens que cette histoire va me plaire.
Ok, alors vas-y, raconte.
Nachtfrauli, littéralement la jeune fille de la nuit. C'est une créature mystérieuse qui apparaît la nuit pour orienter les personnes perdues dans les bois. Alors déjà, je vois pas en quoi être une jeune femme, c'est être une créature mystérieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait la nuit toute seule dans les bois ? Chelou. Et en plus de ça, elle a une sorte de double personnalité. Soit elle est gentille et protectrice, et elle aide les voyageurs égarés à retrouver leur chemin, voire même elle leur paye l'apéro tranquille. Soit elle est mauvaise et fourbe et elle donne des fausses indications et joue des mauvais tours. Ah oui, et aussi je vous ai pas dit, mais elle est belle. Longs cheveux noirs, yeux brillants. C'est une pub pour L'Oréal en fait. Enfin, plutôt Twilight. Jeune, mystérieuse et séduisante. Sacré programme.
Très bien, et après il se passe quoi ?
Bah justement, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que c'est une légende orale du folklore suisse-allemand. Donc clairement, on n'a pas toutes les infos. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire d'une jeune femme seule dans la forêt la nuit pour faire peur aux enfants ? C'est quoi le message ? Pourquoi est-ce qu'on se sert des stéréotypes de genre dans un conte à visée éducative ? Pourquoi cette dualité ? La figure bienveillante de la féminité protectrice et nourricière, aka la maman, versus la séductrice dangereuse, capricieuse et instable, aka la putain. Ah ouais, il est beau le monde binaire. C'est facile à retenir ça, les enfants. Le bien, le mal, tu choisis ton camp.
Ok, Candice, c'est une ancienne...
Alors oui, je sais, c'est une autre époque, une autre culture, et puis de toute façon, c'est de la fiction. Mais quand même... Ok pour donner plus de place aux personnages féminins dans la mythologie. Mais pour en faire quoi ? Des fées ? Des sorcières ? Ou des déesses ? Super le choix. Alors que les mecs sont des héros, des chevaliers, des Robin des Bois.
Voilà. Et quelle est la morale de cette chronique ?
Je crois que c'est la même que celle de l'histoire de la femme de la nuit. Et il n'y en a pas vraiment. Ou du moins, on ne la comprend pas tout de suite. Peut-être qu'on reste sur la version romande du gendarme. Quel meilleur exemple pour incarner la peur aux yeux des enfants.
Laura Gambarini, est-ce qu'enfant tu as été bercée par cette légende ?
Alors, pas du tout. Je ne connaissais pas. Et moi, ça me fait vachement penser aussi à Morgane dans les légendes arthuriennes ou comme ça. Voilà. Mais non, je ne connais pas.
Et je ne sais pas si c'est très connu, très répandu, mais c'est peut-être vraiment sur les parties des montagnes, c'est vraiment ce folklore un peu alpin, reculé.
Mais tu as trouvé un livre ou pas ?
Il y a cet atlas, mais qui est écrit en allemand, que je n'ai pas trouvé à la bibliothèque de Genève. Mes recherches ont été assez limitées, et vu que c'est des traditions orales, il y a très peu de traces écrites, et en plus en français.
José, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Quelle est ta perception de la barrière de Rushdie ? Ou, devrais-je dire, le fossé ? Puisque littéralement, Der Graben signifie le fossé.
Oh, moi j'ai un rapport métaphorique à ça. Je prends tout de suite le concept. Rushdie Graben, ce qui sépare les êtres, du coup je l'étends absolument toutes les fractures dans la société actuelle. Quoi. Il y a du Rushdie Graben partout, quoi. En plus, je trouve que c'est binaire francophone suisse-allemand, parce qu'il y a encore les Italiens, il y a les Romanches, il y a les Yéniches. Donc, voilà.
C'est pas inclusif.
Alors, par analogie, le Polenta Graben a été lancé pour désigner la frontière entre la région italophone au sud du Gothard et le reste de la Suisse, mais sans grand succès. Je m'adresse à l'ensemble du plateau. Pourquoi ça nous touche moins, selon vous ?
Ah, c'est vraiment enclavé et plus petit, le dessin. Enfin,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez menaçants pour qu'on en ait peur.
Ou qu'ils sont trop ralliés à l'Italie, je ne sais pas. C'est que c'est un peu oublié, en fait, comme canton. C'est qu'un seul canton, je ne sais pas. Il y a un truc géographiquement et politiquement qui est un peu écarté.
L'invité qu'on reçoit maintenant s'est penché sur l'unité suisse, qui, par miracle, réapparaît lorsqu'on est expatrié. Il a imaginé une web-série multilingue, elle s'appelle House of Switzerland, et relate la vie d'un bureau londonien qui promeut la culture, le tourisme et le business suisse. C'est humoristique, l'agence de promotion est sans cesse tiraillée entre la vente des clichés populaires et la transmission d'une image plus réaliste et moderne de l'Helvétie. Bernie Forster est l'auteur et réalisateur de ce projet. Il est avec nous au téléphone depuis Zurich. Bernie, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Ève.
Comment a germé l'idée de cette série dans ton cerveau ?
Déjà j'avais habité une année à Londres. Et après, j'ai passé plusieurs fois du temps à New York avec un ami qui travaillait pour le consulat suisse là-bas. Et son job était de promouvoir la culture suisse à New York, aux États-Unis. Et j'ai trouvé très intéressant ce fait de vendre une culture ou un pays, l'image d'un pays. Et aussi, j'ai trouvé très intéressant cette petite famille qui était l'office. Ils étaient toutes ces agents suisses étaient dans le même bâtiment à New York et puis ils se connaissaient. C'était comme une petite famille. Et ils venaient de toutes les régions, de Genève, du Tessin, de la Suisse alémanique. Et ils parlaient anglais entre eux. J'ai senti une unité loin de chez soi que j'ai trouvé très intéressant.
Comment se fait-il que la cohésion soit plus facile à l'étranger ? Tu parles carrément de famille. Est-ce que c'est à cause d'un côté un peu rassurant comme ça ?
Oui, je pense. Déjà, on est loin de la vraie famille. Donc, on a besoin, par exemple, si quelqu'un partait pour deux semaines, qui allait voir, qui allait garder le chat ou le chien. Et donc, il faut des proches. Et puis, je crois que c'est déjà au niveau travail, on se sent très proche et on se fait des amis. Et je pense, la première partie de la question, pourquoi est-ce qu'on sent l'unité plus, je pense que c'est un truc humain, que le cerveau se rend compte des différences beaucoup plus facilement. Tout ce qui est pareil, on n'enregistre pas, on prend pour given, comme c'est donné.
Oui.
Je crois que quand on est à l'étranger, on voit tout ce qui nous sépare de la culture locale, mais du coup, on se dit, ah tiens, l'autre Suisse, là, le Suisse roman, le Suisse alémanique, il n'est pas si différent. Moi, en tout cas, j'ai senti ça. J'ai trouvé un ami jeune, à Londres, en fait. Et du coup, on se sentait, oui, ça, on est vachement similaire, si on compare avec les Anglais autour.
Tu es né à Winterthur, tu as fait tes études de cinéma à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Oui. Quand on discutait en amont de l'émission, tu me disais que tu t'identifiais aux deux cultures. Qu'est-ce qui te parle dans chacune d'elles ?
Oui, alors, je pense pour côté roman, j'aime... Bon, déjà j'aime le... je crois que la culture a une valeur un peu plus élevée dans la culture francophone. Je pense aussi que vous êtes un peu plus léger et un peu plus... vous avez un peu plus l'esprit « essayons ». Essayons quelque chose. On va... Let's give it a try.
Oui.
Allons voir quelque chose de nouveau. Il ne faut pas... Je crois qu'en Suisse alémanique, on est trop... tout est planifié, il faut être sûr que ça marche. Donc ça, c'est un peu... Ouais, ça, des fois, je trouve un peu trop étroit. Et j'aime... Ouais, cet esprit-là, j'ai beaucoup aimé en Suisse romande.
En régie, l'un des régisseurs est à moitié suisse-allemand et il me fait justement un signe qu'aussi, il y a le fait de faire la fête qui est plus roman, si j'ai bien compris son signe, mais je crois que c'est juste. Comme la série se déroule à Londres, sa langue principale est l'anglais, ce qui pose un problème pour les financements officiels malgré son nom, House of Switzerland, et son contenu qui se veut rassembleur. Ce n'est pas un peu contradictoire, étant donné qu'au sein de notre pays, d'une région linguistique à l'autre, on communique de plus en plus en anglais.
Oui, oui, je trouve que c'est dommage. Moi, j'adore l'anglais, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette série. Et je pense, il y a des moments, à l'étranger là, c'est normal que les gens parlent en anglais. Je pense en Suisse, Oui, je trouve que c'est dommage que les jeunes, ils parlent... au moins, ils parlent, mais quand ils parlent, c'est en anglais. Ils apprennent plus la langue de l'autre, mais je pense... Ouais, c'est pour ça, justement, dans la série, je voulais qu'elle ne soit pas qu'en anglais, mais qu'il y ait aussi des parties en français et en suisse-allemand. Ce qui... Ouais, ça va être difficile pour la distribution. J'ai déjà eu des voix qui m'ont dit, si c'était en Suisse allemand, là, on pourrait faire quelque chose pour la distribution en chaîne, mais là, vu que c'est anglais surtout, et puis français, c'est difficile.
Faute de toucher les financements nationaux, comment tu t'y prends pour récolter des fonds ?
Ouais, pour l'instant, disons, pour le pilote, c'était mes propres fonds. Et là, on essaie de faire un crowdfunding. Je sais pas si on utilise ce mot en français
oui,
aussi.
Oui, tout à fait.
Oui, ok. Un crowdfunding pour récolter des fonds. Moi, je travaille presque gratuitement. Il y en a d'autres qui aussi ont mis leur temps dedans. Ouais, parce qu'autrement, c'est, ouais, c'est pas possible.
Pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés à visionner le pilote ou à contribuer au projet, le site web est www.hos-série.com. Et alors, je rassure tout le monde, il y a des sous-titres quand la langue qui est parlée n'est pas la vôtre, évidemment. Bernie Forster, de 2009 à 2011, tu as enregistré une chronique pour le magazine Mise au point de la RTS. L'extrait qu'on a entendu au tout début de l'émission en est d'ailleurs issu. À ce moment-là, tu étais déjà de retour à Zurich et tu travaillais aussi pour la SRF. Quelles sont les différences qui t'ont marqué dans la façon de fonctionner des deux chaînes nationales ? Il y a aussi cette histoire de légèreté qui revient ?
Oui, oui, aussi ça. Il y avait aussi, en même temps, j'ai travaillé sur des tournages, des plateaux. Et là, un truc qui m'a marqué, c'était quand même, quand je suis retourné à Zurich, je trouvais qu'il y avait plus de professionnalisme, il y avait plus, il y avait des outils dont j'en avais jamais entendu. Et que tout le monde me regardait, mais comment vous faites alors sans? Et j'ai dit, bon, je sais pas, on se débrouillait. Je crois que, d'ailleurs, c'est un mot que je ne saurais pas traduire, se débrouiller. Mais je suis sûr qu'il y en a. Mais je trouvais aussi à la SRF le design. Mais là, j'ai parlé des tournages indépendants. J'ai juste trouvé qu'il y avait, c'était beaucoup plus organisé et structuré dans la Suisse alémanique.
Ouais.
Et niveau design, j'ai trouvé que le design roman, la RTS, c'était plus verspielt, je dirais en allemand, je ne sais pas le mot.
Qu'est-ce que ça veut dire, Laura, verspielt?
Ouais, c'est difficile à traduire.
Ouais, un peu ça joue un peu, c'est rigolo, c'est un peu oui, il y a des couleurs et tout ça, et puis on est c'est un peu bande dessinée. D'accord. Et à la Suisse alémanique, la télé, c'est plus sobre, le design est plus sobre, on pourrait dire plus classe, genre c'est ouais, sobre et moins c'est plus, on dit chez nous, hein. Weniger ist mehr.
Ok. Ton humour fonctionne en Romandie, vu que tu as réalisé ces capsules pour Mise au point durant 2 ans. Pour toi, il existe plusieurs styles d'humour, mais pas nécessairement liés à la langue, c'est juste?
Oui, je pense. Je crois que... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'humour, que ça change aussi, que les jeunes, de plus en plus, ils ont un humour qui est né sur social media ou qui est formé sur social media, qui s'adapte un peu, qui est plus international. Mais oui, je trouve qu'il y a de tout. Je sens, je fais aussi la comédie d'improvisation. Là, sur un niveau international, je vois que l'humour de beaucoup de troupes italiennes et françaises est un peu plus physique que, par exemple, les Anglais, qui sont plus verbal, on dit.
Sur le texte, ouais.
Oui, qui font plutôt moins de comédies physiques, vraiment des trucs physiques. Je trouve chez nous, en Suisse alémanique, je trouve un peu moins aussi.
Ok.
Oui.
Merci beaucoup pour ce regard éclairé de personnes ayant vécu des deux côtés de la frontière de Rushti. On va raccrocher ce téléphone sur un titre que tu nous proposes d'écouter, Skinny Love de Birdie. Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau?
Bon, j'ai aimé la version originale de Bon Iver, mais quand j'ai écouté la version de Birdie, c'est captivant de la première seconde, alors que Bon Iver, ça va gentiment, mais ici, là, je suis capté. Il y a une délicatesse, on dit? Non, attends.
On dit ça,
c'est très délicat et très touchant, je trouve. Come on, skinny love. Thank you.
moitié de l'émission.
Midi bascule. Marie-Ève Musy.
Vous qui nous écoutez, j'espère que vous passez un bon vendredi. Si vous avez des idées pour une prochaine thématique, vous pouvez nous faire des suggestions via nos pages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sous les posts des sujets qui vous ont marqué. Ce midi, on s'intéresse aux artistes qui défient le Rechtigrabonne. On a parlé d'une pièce en allemand à destination des francophones, d'une série qui défend l'unité suisse en anglais. Place maintenant à un spectacle musical bilingue à l'attention des enfants. Noémie Doram a co-créé en 2022 Bleu 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 ou Comment les instruments dansent sur les vagues. Il est question d'écologie, d'espace vital, de liberté et d'esprit d'équipe. Voici la bande-annonce.
Meereswasser, Badewasser, Quellewasser, Seifewasser. Apfelwasser, WC-Wasser, Sirupwasser, Spaghetti-Wasser, Meereswasser, Badewasser, Quellewasser, Seifewasser, Apfelwasser, WC-Wasser, Sirupwasser, Spaghetti-Wasser, warme Traum, ma bouteille à moitié vide, c'est la goutte d'eau qu'il faut déborder mon vase, Rigaud-Guerreau me donne l'eau à la bouche. Juste une gorgée, c'est là, pas la mer à boire. Mais je sèche à dos mes larmes et récolte l'écolo. Patiemment, l'outre, l'outre, vase, 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 l'olo. Mais je sèche à dos mes larmes et récolte l'écolo. Patiemment, l'outre, l'outre, vase, vase, vase.
Ce spectacle a été créé à Bienne, ville bilingue. Est-ce que ce ne serait pas ça la solution pour plus de tolérance envers l'autre, baigné dans une double culture depuis l'enfance? Mais attention, pas seulement à l'école, hein, dans des cours d'allemand souvent laborieux, mais aussi durant ses loisirs, entouré de musique et de chant. Est-ce que toi, ça t'aurait fait aimer cette autre culture, José? D'aller au théâtre, par exemple?
Je ne sais pas, il aurait fallu que je sache qui j'allais devenir plus tard, comme ça. C'est-à-dire un passionné de littérature allemande et de philosophie allemande. Voilà, ça m'aurait motivé, mais au départ, je ne voyais pas. C'était utilitaire ce qu'on nous disait. Mais oui, si tu veux faire des métiers fédéraux, gradés, etc. Donc, moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Ce n'était pas motivant. Plus, tout le préjugé nazi, parce que Allemagne égale nazi à l'époque, voilà, c'est ça. Même dans la Pléiade, je me souviens d'anthologie bilingue de la poésie allemande, ils s'excusaient de la publier, quoi. Étant donné que c'était posé, que ça, c'était une culture qui amenait au nazisme, quoi. On en était là, à du temps de quand je faisais mes études d'allemand.
Laura Gambarini, comment mieux valoriser le multiculturalisme?
Waouh. Eh ben.
Ah oui, on balance du lourd dans Midi
Bascule. Écoute, je pense que faire des petits pas, comme la chanson la petite goutte d'eau. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau et on peut l'essayer.
Non, mais je te pose la question à toi parce que ouais. Tu as l'air de. En tout cas, tes parents ont réussi. Avec toi.
Ben oui, mais du coup, c'était déjà un foyer entre le français et l'allemand. Donc, donc, ça ne me paraissait pas bizarre, en fait, qu'on parle différentes langues. Ce n'est pas un problème en soi. On peut choisir d'en faire, hein, par contre.
Mm-hmm. On peut parler d'écologie dans des styles très différents. Bleu, bleu, bleu l'a fait en musique, en douceur et de façon poétique. José le fait au second degré, et même s'il aime manier le phrasé, c'est un peu plus trash.
C'est la version adulte. Salut à toi, les sinistrés du 21e siècle. Et sache qu'en usant de cette épithète, je ne m'adresse pas par là à une petite communauté de niche particulièrement dépressive ou pessimiste, mal lunée, ou à celles et ceux qui sont, que pitié leur soit faite, frappés par la guerre ou les catastrophes, économiques ou environnementales, par la misère de vivre, ou par l'extrême droitisation des esprits dans leur pays, leur quartier, leurs médias, leur propre cervelle en surchauffe, mais bien à la grande cargaison des vivants, embarqués par force, mais aussi par consentement, avouons-le nous, dans les soutes mondialisées du capitalisme de prédation, dans ce grand cargo de la perdition commune. Masses humaines à la fois matérielles, combustibles de la croissance et vulgaires munitions, entassées les unes contre les autres jusqu'à l'explosion. pâture d'industries mortifères et mensongères, à terme obsolètes et dévastatrices. Et nous voguons, avachis la nuit devant des séries génériques, à la poursuite de l'impossible oubli du monde et de la vie, gorgé de simulacres pour solde de tout compte. Et le jour, empêtré dans des besoins consuméristes idiots, nababisé par la marchandise et la pacotille, la quincaille et le clinquant, la sape extravagante, les intelligences de remplacement serviles et les automobiles aux dimensions grotesques et pathétiques. Quelle folie ! Si un article de loi prévoyait la non-assistance à espèces en danger, humaines, animales, végétales, insectoïdales, polypoïdales, tétrapoïdales, nous serions dedans jusqu'au cou, toutes et tous autant que nous sommes, au grand Nuremberg des imbéciles, des indigents de l'empathie, des abolitionnistes de l'avenir et du vivant. Voyons, pourquoi tant de fougue, de rage si noire ? Parce que la communication est devenue la forme d'effacement du réel, de la mise à la marge de la connaissance, parce que la connaissance est devenue un domaine adverse aux intérêts en cours. Elle est là pourtant, à portée de clic, à portée de livre, la connaissance. Comme par exemple ici, dans « La ruée minière au XXIe siècle » de Célia Isoar, récemment paru au Seuil. Et que dit-elle, la connaissance ? Que la transition vers les énergies décarbonées n'aura pas lieu. Parce que l'extraction des matières premières pour y parvenir, des métaux nécessaires pour passer à l'électrisation du système énergétique mondial, à l'hypernumérique, à l'éolien, au solaire, à la décarbonation, est elle-même énergivore en énergie carbonée, polluante, chimique, destructrice de l'environnement. Parce que tout ce qui nous entoure vient déjà de l'extraction des sous-sols et voyez l'état du monde. Parce qu'en seulement 20 ans, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé. Parce que dans les 20 années à venir, les entreprises minières veulent produire autant de métaux qu'on en a extrait au cours de toute l'histoire de l'humanité. Parce que 99,6% de ce qui est extrait est du déchet. Parce que l'extraction dans une grande mine de cuivre, par exemple, nécessite 110 000 mètres cubes d'eau par jour. Parce que les alentours des trois quarts des sites miniers dans le monde sont désormais menacés de sécheresse. Parce qu'en 2016, dans le Montana, il a littéralement plu des milliers d'oies sauvages mortes sur la ville pour avoir bu dans un lac contaminé par une mine de cuivre à ciel ouvert. L'eau n'était pas de l'eau, c'était une mer d'acide pleine de calcium et d'arsenic. Parce que les enfants là-bas y développent des cancers du cerveau. Parce que la pollution minière est irréversible. Parce que le modèle de la mine à ciel ouvert qui domine aujourd'hui a fait exploser la quantité de déchets. Parce que les pluies qui tombent sur ces déchets drainent des eaux acides et des métaux toxiques et empoisonnent la terre et l'eau. Parce que les mines d'extraction du Chili font fondre les glaciers de la cordillère des Andes qui sont les châteaux d'eau de l'Amérique du Sud. Parce que les gisements miniers les plus riches sont situés dans les zones préservées de la biosphère. Parce que pour électrifier le parc automobile d'un petit pays comme par exemple l'Angleterre, il faudrait un an de production mondiale de cobalt. Parce que les véhicules électriques de 2 tonnes ont des batteries de 700 kg, dont 50 kg de lithium. Parce que dans un smartphone, il faut plus de 50 métaux. Parce que la mine et le colonialisme sont intimement liés depuis l'Antiquité. Parce que l'intelligence artificielle, présentée comme le nouvel Eldorado de la performativité paresseuse, nécessite des quantités phénoménales d'extraction minière pour garantir la puissance de calcul de ses data centers et de ses périphériques connectés. Parce que la facture énergétique des data centers est constituée pour ces deux tiers des données du marketing, de la publicité et de la pornographie. Parce que les droits humains sur les sites d'extraction minière sont piétinés avec la même intensité que leur écosystème. Au final, je me demande si ce que les médias appellent communément éco-anxiété ne mériterait pas plutôt d'être désigné par l'expression bien plus appropriée et vitalisante de bullshitophobie.
Merci José pour cette chronique d'actu pas du tout flippante. Si vous voyez, chers auditeurs et auditrices, les têtes des gens dans le studio, bah oui, bah je comprends. Laura, ça t'a parlé ?
Oui, oui, merci pour cette petite claque nécessaire, drop the mic.
Et pour passer peut-être à une note un peu plus optimiste, Candice, toi, tu y crois, tu fais preuve de résistance écologique. Quelles sont tes actions écolo ?
Alors, j'ai pas de voiture, je me déplace principalement en vélo, j'ai pas de smartphone, j'ai pas d'enfant, j'ai pas prévu d'en avoir. J'habite dans un petit logement, dans un grand ensemble collectif. Je suis végétarienne, j'essaye de m'habiller avec les habits qui appartenaient à mes parents et à mes grands-parents. Je couds des habits dans du tissu que j'ai récupéré chez mes grands-mères. Ouais, je sais pas, je fais les choses à mon échelle. J'essaye d'avoir un métier dans une industrie qui est pas très polluante. J'ai fêté les 10 ans de mon ordinateur cette année, là, récemment.
Il marche toujours parce que moi, il a atteint 10 ans et après, il a rendu l'âme parce qu'il n'y avait plus aucun programme qui était compatible.
Bah,
en fait.
Écoute, j'ai l'impression que je vais y arriver gentiment. Ouais, ça devient
c'est un peu la limite, 10 ans, je crois. Ouais.
Mais voilà, j'essaye à mon échelle de faire des petites choses et d'y croire. Et puis, on verra.
C'est bien. D'ailleurs, je vais peut-être vendre ma voiture maintenant que j'y pense. Parce que le Tessin est encore plus minoritaire que nous. Ces habitantes et habitants ne représentent que 4% de la population suisse totale. Ce n'est pas une raison pour les oublier. On écoute Photo Hot de Mathilde, une chanteuse tessinoise.
Hotel, camera singola, quarto fuori Milano, in questo hotel. Non ho spazio per la mia bambina, però so che mi manda foto hot. Bagno con bolle di sapone, amore, mi manchi, vieni qui, non andartene dall'hotel. Mi tieni sveglia per tutta la notte, le note della tua voce che fa.
Vous écoutez Midi Bascule, on entame la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, on parle de faire la paix entre les régions linguistiques avec Laura Gambarini, la créatrice du spectacle The Game of Nibelungen. Laura, tu as fait une partie de tes études à Berlin, une destination en vogue, comme l'a justement fait remarquer Candice tout à l'heure. Est-ce cette raison qui t'a poussée là-bas à vivre dans une ville tendance ?
Non.
qu'est-ce qui t'a attiré à Berlin?
En fait, j'avais rencontré un prof de mime extraordinaire pendant mes études à l'université à Berlin. Et du coup, je suis revenue à Lausanne et je suis retournée à Berlin pour faire cette école de mime. Et c'est là que je peux profiter de rebondir sur ce que tu disais, Benoît. Moi, je ne suis pas du
tout... Donc, qui est le régisseur pour
Voilà, qui nous voit par la vitre. Coucou. Du coup, moi, je ne suis pas du tout d'accord que faire la fête, c'est mieux en Suisse romande. La capitale de la joie, c'est... Bon, c'est pas rentrée, mais... Non, mais la capitale de la... c'est nul. La capitale de la fête, c'est Berne, c'est Bâle, c'est Zurich. C'est... Mais aussi, pourquoi pas, Lausanne et Genève. On peut très, très bien y faire la fête.
Mais moi, je propose que tu emmènes Benoît faire la fête à Berne, un de ces quatre, hein, et il est d'accord. y a-t-il un aspect, reprenons, de la culture germanique qui t'a marqué dans ta formation ?
Un aspect de la culture germanique qui m'a marqué.
Ou alors, quel point propre à cette culture te plaise ? Outre faire la fête, on l'aura compris, mais qui finalement, c'est interculturel.
Bah oui, c'est ça. En fait, on a beaucoup parlé des différences là, pendant l'émission, ça m'a frappé. Mais en fait, justement, moi, j'aurais plutôt envie de dire les similitudes. En fait, j'ai retrouvé à Berlin aussi, ils savent aussi hyper bien boire l'apéro, ils savent aussi bien faire la fête, ils savent aussi aller dans des parcs, faire du ski nautique sur des tout petits lacs. Ils ont des petits lacs, ma foi, voilà, un grand lac. Mais du coup, j'avais plutôt envie de dire ça.
Tu as raison, parce que c'est un peu triste, finalement, de chaque fois se concentrer sur ce qui nous sépare. Donc, concentrons-nous sur les points qui nous rassemblent. Merci pour cet apport. Tu as étudié le mime, tu le disais tout à l'heure, une langue universelle. Et je reprends tes propos qui te permet de poursuivre ton but ultime, aller à la rencontre des gens. Est-ce l'élément principal qui motive tes choix de projet ?
Oui, alors je me suis posé la question parce que là j'ai fait quelques projets et jouer dans la rue ou dans des lieux non dédiés, c'est exactement ça, c'est vraiment aller au contact direct pour toucher le public, vraiment genre au propre comme au figuré quoi. Attends, c'était redis la question.
C'était aller à la rencontre des gens, ta motivation pour accepter les projets ou lancer de nouveaux projets.
Oui, alors oui, ça c'est très fort, le côté démocratique. Et j'ai aussi remarqué que tous les personnages mouraient tout le temps et que je jetais beaucoup de nourriture. Dernièrement, j'ai constaté ça dans mes projets de théâtre d'objets. Voilà.
Alors, je me demande en fait, pourquoi tu ne travailles pas plus outre Sarine ?
Ben parce que les textes là sont vraiment faits pour un public francophone.
Même... Alors, pas forcément avec ce spectacle-là, mais comment ça se fait qu'avec toutes les langues que tu parles, tu ne sois pas plus mobile ?
Bah, en fait, on est pas mal mobile. Là, on a joué au Luxembourg, on va aller jouer en Belgique, on joue beaucoup en France. Mais de base, en fait, moi, j'aime bien jouer au niveau local. Puisque faire de la voiture, ça m'intéresse moins que de jouer. Mais même là, le dernier spectacle, on peut même prendre le train, quoi. Donc c'est vraiment trop cool, ça tient dans une valise, c'est top. Du coup, c'est ça. Bon, là, je me fais un peu déborder et je suis hyper contente, hein, évidemment, que le spectacle, il est un succès comme ça. On a été à Cherbourg manger des coquilles Saint-Jacques, c'était génial. Enfin, voilà. Et à Avignon, etc. Donc, ça me remplit le cœur que...
Quelles sont tes prochaines dates ?
Alors, j'ai noté avant. Alors, on est au Reflet du 21 au 24 mars.
À Vevey.
Oui, à Vevey, exactement. Et on vient aussi à Plan-les-Ouates le 5 avril. Voilà.
Très bien. Donc, à vos agendas, les personnes qui nous écoutent. Candice et José, qu'est-ce que vous auriez envie de garder pour la fin de cette émission ?
Moi, j'ai co-animé un karaoké à Bienne il n'y a pas très longtemps et c'était hyper cool parce que les gens chantaient en suisse allemand, je ne comprenais pas, mais tout le monde chantait, il y avait un truc de partage. Enfin, j'ai absolument pas senti de barrière. Donc
toi, tu parlais français ou anglais ?
Oui, je parlais français ou anglais. Du coup, quand les gens venaient me voir et qu'ils me demandaient des chansons en allemand, j'étais là, yes, j'essayais de faire genre je parlais, mais pas trop. Donc, mais ça marche en fait.
Et toi, José ?
Mais moi, ça me renvoie à un souvenir récent de ma cinéphilie. J'ai vu un western un peu au hasard, comme ça, et c'est avec Clark Gable et des Indiens. Mais les Indiens parlent indien, et c'est pas sous-titré. La moitié du film n'est pas sous-titré, et les Indiens parlent indien, avec des vrais Indiens. Et je trouvais que le film passait très très bien. Et puis malheureusement, c'est une expérience assez rare. Donc en fait, c'est un préjugé total. Il ne devrait pas y avoir de problème.
Mais on comprend parce que cette dimension. Tu comprends autrement ce qu'ils disent, ou non, tu ne comprends pas et c'est OK?
Non, il y a des choses qui restent totalement nébuleuses, mais après tout, même dans le français, on ne comprend pas tout non plus du français. Il y a aussi le français est aussi une langue étrangère quelque part. Hein,
oui,
sur les mots qui sont employés, la tournure des phrases. Voilà.
Parfois, on ne se comprend pas dans notre propre langue, effectivement.
Ouais, donc, ça ne doit pas être un problème de ne pas comprendre. Ce qui est intéressant, c'est ce qui passe.
Mm-hmm. Laura, un dernier mot ?
Moi, je suis assez d'accord avec ça, que parfois, il faut aussi accepter que... notre langue, elle dit le monde, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passent. Mais peut-être que là, c'est la mime qui est en moi, qui crie dans son silence, quoi, qui dit, beaucoup de choses passent, même si on ne comprend pas chaque mot.
Et là, vous ne la voyez pas, mais elle gesticule derrière son micro. Ah non, José, tu voulais dire...
Oui, je voulais dire, ma fille a 6 ans, mais elle est dans les langues imaginaires, donc on communique beaucoup par langue imaginaire et on se comprend. Voilà. Et les enfants adorent ça, réinventer les mots, prendre un mot, le traduire dans un blabla, et puis c'est formidable.
Merci beaucoup. Donc, gardons aussi notre âme d'enfant et soyons prêtes et prêts à communiquer autrement. Merci beaucoup, Laura Gambarini, d'avoir passé cette heure avec nous. Vielen Dank an Bernie Forster für seinen Anruf. Vous avez entendu les chroniques de José Lillo et Candice Savoya. Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, c'était Léonard Blanc et Benno Serex. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans le week-end. Tchuss!